Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Mathilde Bourré, qui est directrice des ressources humaines globales de 55. Si j'ai souhaité recevoir Mathilde, c'est parce que 55 est une ancienne start-up devenue grande et qu'il m'a semblé très intéressant d'avoir le point de vue d'une DRH sur la gestion de la croissance d'une start-up d'un point de vue humain, mais également de savoir comment une DRH a géré la pandémie en étant présent sur plusieurs continents. Nous parlerons également de culture d'entreprise, de carrière et de beaucoup, beaucoup d'autres choses. J'espère que vous apprécierez autant cet entretien que j'ai eu à le réaliser. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathilde.
Bonjour Gaël.
Alors, je vais, comme d'habitude, vous présenter rapidement au travers de votre parcours avant d'attaquer les questions. Si jamais je fais une erreur, vous n'hésitez pas à me corriger après cette présentation. Alors, après une maîtrise de sciences économiques obtenue à l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas, vous avez démarré votre carrière dans la finance en tant qu'equity sales à la Deutsche Bank. Pendant 10 ans en salle de marché, mais vous avez eu un déclic après et vous avez décidé de reprendre votre carrière à zéro pour rejoindre de plus petites structures et notamment des startups en tant que responsable administratif et financier. Autrement dit, vous étiez RAF. J'ai toujours adoré cette dénomination. Vous découvrez cette nouvelle facette du monde professionnel et vous renouez alors pleinement avec l'humain, l'aspect qui vous avait énormément manqué pendant ces 10 années dans la finance. Et vous y découvrez enfin le métier de ressources humaines et intégrez 55 en 2013 en tant que HR and Administrative Senior Manager. J'adore ces titres en anglais, je peux un peu être prétentieux avec mon accent. Alors que la société ne compte qu'une poignée de salariés et c'est justement pour cela que j'ai voulu vous interviewer car maintenant, 55 est une entreprise de près de 300 salariés à Paris, à Hong Kong, à New York, à Shanghai, à Shenzhen, à Taipei et à Genève. Est-ce que la présentation que j'ai faite de vous jusqu'ici vous convient, Mathilde ?
Elle est pas mal, elle est assez fidèle à la réalité. Oui, ça me convient bien. Je n'ai pas vraiment eu un déclic, mais en tout cas, voilà, les choses se sont bien goupillées, on va dire, pour que je démarre dans ce nouveau monde avec une carrière qui me ressemble beaucoup plus que celle que j'avais vécue avant. Et je dois dire qu'il y avait des relations humaines déjà beaucoup et j'appréciais beaucoup les gens avec qui je travaillais. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai tenu si longtemps d'ailleurs. Mais le métier en lui-même était vraiment pas fait pour moi. Donc voilà, ça fait du bien de faire quelque chose qui nous ressemble.
Mais justement, parce qu'on oppose souvent le monde des startups au monde des grandes entreprises, est-ce que vous avez vraiment vu une énorme différence et qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors je ne parle pas de 55 maintenant, je parle vraiment du début par rapport à une grande entreprise, parce que c'est quand même confortable une grande entreprise.
C'est confortable, mais oui, moi j'ai vu une vraie différence, très clairement. Et je crois que si c'était à refaire, je ne changerais rien. Mais en revanche, pour la suite de ma carrière, il est clair que je ne m'orienterais pas vers des grosses entreprises si je devais bouger un jour. Il y a quand même une grosse différence. Je pense que les grosses entreprises sont assez politiques, mine de rien. Et puis également, on est souvent cantonné sur un rôle très spécifique quand on est dans une très grosse boîte, alors que dans une petite structure, je pense qu'on a parfois plus de possibilités de faire des rôles plus variés et d'avoir des tâches plus diversifiées. Après, moi, je sais que j'ai fait un rôle qui est... mon métier était vraiment très, très spécifique et mes journées étaient un peu les journées de la marmotte, c'est-à-dire un peu tous les jours la même chose. On arrive, on lit le journal, on appelle des clients pour leur raconter ce qui se passe dans le monde et sur les entreprises qu'on suit et on fait des recommandations et tous les jours se suivaient. Et après, quand je suis passée dans une petite boîte, je me suis dit, mais on peut avoir des journées complètement variées où on fait des choses différentes chaque jour et c'est tellement riche et il y a tellement d'opportunités quand la boîte grossit également. C'est assez passionnant. Alors, je ne doute pas qu'il y ait beaucoup d'opportunités aussi dans les très grosses boîtes parce qu'il y a évidemment des opportunités de mobilité interne, peut-être plus variées aussi. Mais je pense, mine de rien, qu'on est quand même plus un numéro quand on est dans une grosse structure que quand on est dans une petite boîte.
Mais justement, c'est pour ça que je voulais vous parler, Mathilde, puisque effectivement, la vie en start-up est un tantinet différent qu'à la Deutsche Bank, j'imagine. Mais cela étant dit, vous êtes passé d'une start-up à ce qu'on appelle de façon, je déteste ce mot, je vous préviens, une scale-up. Donc en gros, ça veut dire une grosse PME. J'imagine qu'il y a eu des changements de culture, il y a eu des changements par rapport à cette ambiance que vous aviez au début, où j'imagine que vous étiez au four et au moulin en permanence. Là, vous êtes obligé de structurer. Comment est-ce que vous gérez ce changement de culture, si jamais il y a eu un changement de culture d'ailleurs?
Alors, on s'accroche pour qu'il n'y ait pas trop de changement de structure, de culture, pardon. Donc, je pense que ça tient beaucoup au management, c'est-à-dire aux fondateurs. Je crois que vous êtes un grand fan de Google, donc vous serez très heureux de savoir que les fondateurs de 55 étaient d'anciens directeurs de chez Google, qui ont donc importé une partie de la culture Google, mais dans une petite boîte. Donc voilà, je pense qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait de meilleur chez Google pour l'apporter chez 55. Et donc ça, c'était assez passionnant. Et on essaye en effet de maintenir cette culture et de maintenir ces liens qu'on a entre les salariés quand on est une petite boîte. Donc le grand défi, à mon avis, le défi principal, ça a été en effet de faire en sorte que les gens qui appréciaient d'être très proches des fondateurs, de leur taper dans le dos le vendredi soir quand on allait boire des verres ensemble, etc. En fait, quand on a grossi, ils ont senti qu'ils perdaient ce lien parce que forcément, on est obligé d'avoir du middle management pour commencer à déléguer. Ils ne pouvaient plus tout faire tout seuls. Donc, il y avait… Voilà, je pense que les gens qui étaient là au tout début, ils ont un petit peu, ils ont dû souffrir un petit peu de ça et trouver ça difficile en effet de voir qu'il y avait un petit peu plus d'éloignement. Mais quand on arrive à recruter des gens qui nous ressemblent, et je pense que ça a été le grand talent des fondateurs de 55, c'est d'arriver à recruter des gens qui avaient la même culture, les mêmes valeurs qu'eux, le même humour aussi. Enfin, voilà, toutes les qualités qu'ils ont et c'était pour ça qu'on avait envie de les suivre dans cette grande aventure. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le succès qu'ils ont eu aussi. Ils ont eu le talent de savoir s'entourer et de personnes qui leur ressemblaient, de choisir des gens qui avaient un bon fit. Les valeurs de 55, c'est bienveillance, partage et excellence. Et je pense que, voilà, ce qu'on avait l'habitude au début quand on était petit, on disait l'excellence coule. Mais je pense qu'on a quand même réussi à garder ça en grossissant. Ouais, en faisant grandir les gens aussi avec la boîte. Ça, c'est un des succès. C'est-à-dire quand on est petit et qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, et ils ont la chance de grandir avec la boîte. C'est ce qui m'est arrivé à titre personnel. Je suis rentrée pour aider les partners. À l'époque, il y avait très peu de fonctions support. Donc, je suis rentrée un peu en mettant la main à la pâte sur tous les domaines. Et puis, on s'est structuré. Mais en fait, ils ont su nous faire grandir. Moi, je suis devenue DRH. J'aurais jamais imaginé en sortant de la finance et en reprenant à zéro que dans quelques années, j'aurais pu être DRH d'une boîte de 250 personnes comme aujourd'hui. C'est insensé comme parcours.
Mais bien entendu, nous sommes entre nous, chère Mathilde, et donc nous sommes entre nous et les fondateurs ne nous écoutent pas. Est-ce que quand 55, vous serez 3 000 ou 4 000 personnes, je ne sais pas, est-ce que vous aurez un petit pincement au cœur en vous disant, ah, ça y est, on est une grande boîte et donc je vais me relancer dans l'aventure d'une start-up? Ou est-ce que c'est cet accompagnement dans le fait que bah, bientôt vous serez aussi gros que la Deutsche Bank, est-ce que c'est cet accompagnement qui est passionnant, ou est-ce que vous pensez à un moment vraiment regretter ces débuts et essayer de les retrouver, histoire de se réoxygéner le cerveau?
Alors, il y a la question de la carrière à titre personnel et il y a l'avenir de la boîte. Quand on recrute des gens, ils n'ont plus la nostalgie des débuts parce qu'ils ne l'ont pas connue. Donc, en fait, en grossissant, on dilue cette nostalgie. Donc, en effet, il y a des gens qui étaient là au tout début, qui ont grandi avec la boîte. Il y a des gens qu'on a recrutés de l'extérieur. Et en fait, ça fait aussi du renouveau, ça fait aussi du sang neuf. Et voilà, donc quand on a aimé les débuts d'une entreprise, on a à cœur de continuer à la voir grandir et de continuer à en faire un succès. Donc je pense que c'est ça qui nous motive au quotidien, d'arriver à faire que ça se poursuive sur cette très très belle lancée et que les gens continuent à s'y retrouver. Mais je pense qu'en effet, les gens qui vont être recrutés aujourd'hui, ben, ouais, ils sont recrutés dans une boîte de 300 personnes, ils n'auront pas de pincement au cœur. Donc nous, il faut qu'on…
Mais justement, comment est-ce qu'on gère ça? Parce que vous êtes sur 7 bureaux, si je ne dis pas de bêtises, donc en Asie, non, pas aux États-Unis. Ah, si, si, aux États-Unis, pardon, en Suisse, en France. Comment est-ce qu'on gère une culture d'entreprise? Est-ce que vous arrivez à avoir une culture d'entreprise globale, ou est-ce qu'il y a juste quelques guidelines et chacun les fait soi? Comment vous gérez ça concrètement?
C'est un mix des deux. C'était vraiment un mix des deux, je pense. C'est-à-dire essayer de faire vivre une culture d'entreprise globale, recruter des gens qui nous ressemblent pour gérer les bureaux locaux ou faire grandir des gens qui sont là pour gérer les bureaux locaux. Parfois, envoyer des gens du bureau central qui ont connu 55, qui connaissent bien l'ADN, etc., et les envoyer aussi dans les entités locales pour qu'ils insufflent la mentalité, l'état d'esprit 55. Donc, je pense que c'est vraiment un mix des deux. On l'a vu aussi pendant le confinement. On vivait complètement à des rythmes différents. Les lockdowns, ils n'étaient pas les mêmes. La situation sanitaire, elle était très différente d'un pays à l'autre. Donc, il a fallu s'adapter localement. Moi, il y a un moment, je vous avoue, je n'arrivais plus à suivre. On avait toute notre problématique à gérer qui était monstrueuse sur le marché français. On devait apprendre en marchant, le chômage partiel, toutes ces choses-là qu'on n'avait jamais gérées avant. Les gens en télétravail, on n'en avait jamais fait avant. Donc, en effet, on était très pris dans tout ça. Et donc, il a fallu déléguer. Et localement, l'Asie, ça a commencé chez eux au début. On était complètement à côté de la plaque, on ne pensait jamais que ça arriverait en France. Et puis, bam, on s'est pris une vague derrière. On pensait que c'était local comme problématique. Donc, ils ont commencé à gérer des choses dont on n'avait pas idée ici à Paris. Et donc, heureusement, on peut s'appuyer sur des gens de qualité et de valeur dans les bureaux locaux pour gérer tout ça. Et après, on essaye de maintenir une culture globale. C'est-à-dire que, pour vous donner des exemples concrets, les formations, c'est les mêmes pour tout le monde. Quand on recrute du monde, on leur fait des formations qui sont identiques pour tout le monde. On les fait en anglais. Tout est disponible. Là, on a dû s'adapter pendant les confinements. Donc, pendant le télétravail, on a tout fait en vidéo pour que tout soit disponible. Parce que d'habitude, les gens de tous les bureaux, dès qu'ils étaient recrutés, ils venaient à Paris pour connaître 55 Paris, rencontrer les formateurs qui sont des formateurs en interne. Qui leur faisait toutes les, voilà, qui animait toutes les formations initiales, parce qu'il y a une grosse formation technique à l'arrivée chez 55, parce que c'est du digital, ça s'apprend quand même. Il n'y a pas d'école vraiment qui mène à ça. Donc, par exemple, tout ce qui est formation, c'est globalisé. Il y a des fonctions qui sont des fonctions centrales, donc les fonctions d'expertise et d'innovation, on en a beaucoup à Paris. On a certaines fonctions qui sont principalement à Paris, sur lesquelles s'appuient les bureaux internationaux. Et puis après, en termes d'animation de la communauté aussi, on essaye de faire des choses transverses pour créer des liens entre les bureaux. On a une course, par exemple, en relais qui s'appelle la 5 en 5. On a essayé de la développer pour que tout le monde puisse courir dans tous les pays. Voilà, donc il faut faire des initiatives à la fois globales et locales. C'est un vrai mix.
Alors, une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on a traversé une petite crise, une petite pandémie. J'imagine que vous en avez entendu parler. Et les DRH ont été très, très sollicités, notamment pendant le premier confinement. Comment est-ce que vous avez géré cette crise? Que déjà, pour un DRH franco-français, c'était très compliqué. Est-ce que vous avez vécu H24? Parce qu'en plus, ça a suivi de l'Asie jusqu'aux États-Unis. Est-ce que ça vous a servi à mieux gérer les États-Unis? Et est-ce que vous avez été sur le pont H24 du fait des décalages horaires et ce genre de choses? Comment vous gérez ça dans le cadre d'une crise?
Non, parce que sinon on ne dormirait plus si on gérait H24, notamment avec l'Asie et les États-Unis, on ferait les 3-8. Non, encore une fois, on a délégué, donc bien sûr on était en contact, on se tenait au courant sur la manière de gérer les choses, mais ça a été géré beaucoup en local pour s'adapter. Ça changeait très vite en plus, donc il fallait avoir la plus grosse difficulté, c'était de devoir prendre des décisions très importantes très rapidement. Je pense que des choses très nouvelles qu'on n'avait jamais vécues avant. C'était difficile. Quand le président Macron a annoncé que quasiment du jour au lendemain, les gens devaient être en télétravail à 100%, confinement généralisé, etc. Nous, on avait commencé à anticiper, mais c'est arrivé. Il fallait donner des directives aux salariés, leur dire ce qu'ils avaient le droit de faire, où est-ce qu'ils avaient le droit d'aller. Il fallait réagir en 24 heures. Tout ça a été d'une complexité folle. Après, on a eu toute la mise en place en effet du chômage partiel, pareil. Et il y avait des soutiens gouvernementaux très spécifiques dans chaque pays, parce que les États-Unis, ils ont proposé des choses localement. Donc, il fallait aussi essayer de digérer tout ça et de savoir ce qu'on pouvait mettre.
Ah, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, j'avais pas prévu de vous poser la question, mais d'un point de vue aide gouvernementale, du point de vue soutien des entreprises, quel était le pays où c'était le plus confortable du point de vue de la DRH là?
Enfin, le plus confortable.
Non, c'était compliqué, mais en tout cas le moins anxiogène du fait de la crise économique qui était liée à la pandémie, des aides.
Je pense que c'est la France. C'était compliqué administrativement à mettre en place, mais la France a été incroyablement généreuse, et, enfin le gouvernement français avec la mise en place du chômage partiel. Nous, on a décidé de maintenir les salaires à 100%, donc on en a rajouté, on a rajouté au-dessus. Donc tous les gens qui ont été mis en chômage partiel au moment de la crise n'ont pas eu d'impact sur leur salaire. Ce qui était difficile à gérer, hein, parce qu'il y a des gens qui ont été plus en chômage partiel que d'autres. Et donc, en même temps, décider que de maintenir les salaires, c'était une décision qui nous semblait juste. Et en même temps, pour certaines personnes qui ont moins, entre guillemets, bénéficié, si on peut utiliser ce terme, excusez-moi, mais voilà, qui ont été moins en chômage partiel, ils avaient l'impression de bosser à 100% alors que d'autres bossaient moins et étaient payés tout autant. Donc, c'était très difficile à gérer parce qu'il y avait des décisions difficiles à prendre. Je pense qu'on a pris les meilleures décisions, c'est-à-dire qu'il y a eu le moins d'injustice possible.
Et qu'est-ce que vous allez retenir, vous, alors pas à titre personnel, mais quand même avec votre regard de DRH de la pandémie, quel sera l'impact, si tant est qu'il y en ait, que la pandémie aura de façon durable sur 55?
Il n'y a aucun doute, c'est le télétravail.
Ouais.
Voilà. Nous, on était zéro télétravail, à part pour attendre le plombier quand il devait passer ou voilà, pour aller à un rendez-vous chez le docteur. Mais voilà, on avait zéro télétravail avant la pandémie. On est passé à 100% télétravail pendant la pandémie. Et puis là, il va falloir apprendre l'après-Covid, écrire les nouvelles règles. On est en train de faire une consultation de tous les managers pour avoir leur ressenti en fonction des équipes, la nécessité de venir ou non, voilà, en fonction des rôles. Tout ça est compliqué, il faut l'écrire et il faut se dire aussi que, parce que tout le monde se rue sur le télétravail tête baissée, enfin, il y a beaucoup de boîtes qui vont à 100% ou pas loin, qui disent que voilà, ça va être très, très flexible à l'avenir. Il faut quand même, je pense, faire attention à ce qu'on met en place parce qu'on a une base de comparaison qui a été mise en place pendant une période où les choses étaient très, très particulières. C'est-à-dire que tout le monde était coincé à la maison devant son ordinateur. On avait parfois du mal à faire déconnecter les gens parce qu'en fait, ça les rassurait aussi de travailler. Donc, ils se ruaient dans le travail à 300%. Quand tout aura réouvert, qu'on pourra, on y est presque, on pourra aller partout, sortir le soir, boire beaucoup, parfois, faire des soirées tardives. Non, mais c'est vrai, quand on aura, ça reviendra, j'espère, quand on aura de nouveau une vie normale, le télétravail, ce sera plus difficile, je pense, à gérer pour les entreprises. Et en plus, je pense qu'il ne faut pas oublier que certaines personnes pour lesquelles il est difficile d'avoir... pour lesquels il est plus difficile d'avoir des relations sociales. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très à l'aise dans la relation sociale, il y en a d'autres qui sont moins à l'aise. Et si on commence à être très flexible sur la possibilité ou non de venir au bureau, moi, j'ai la crainte qu'on perde certaines personnes qui se renferment sur elles-mêmes et pour lesquelles ça va devenir de plus en plus difficile de passer le cap de venir au bureau dans un open space, affronter les collègues, comme on dit. Et donc, revenir dans un environnement ça va leur sembler de plus en plus hostile. Donc, à mon avis, ce n'est pas un cadeau forcément à faire à tous les salariés de lâcher complètement le télétravail et de devenir trop souple. Donc, et puis, il y a une nécessité. Il ne faut pas oublier qu'on a vécu sur une inertie pendant le confinement des rapports sociaux, de tout ce qu'on avait construit, de relations sociales, d'amitié, de savoir-faire ensemble, etc. On a vécu le confinement et le télétravail à 100% avec cette inertie, sur notre lancée. Et aujourd'hui, on doit intégrer des gens, on recrute. Recruter quelqu'un qui est chez lui à 100% et qui ne voit pas ses équipes, pour lui, c'est un cauchemar. Il ne peut pas s'intégrer, il n'a jamais vu les personnes. Il y a des visages, il y a des noms, il ne sait même pas mettre des visages dessus. Enfin, voilà, tout ça est difficile, donc je pense qu'il ne faut pas trop rapidement tirer les leçons de ce qu'on a vécu, parce qu'on l'a vécu dans des conditions très...
Alors, je vais faire une grande première dans Happy Work, Mathilde. On va faire un jeu de rôle. Imaginez, je suis un de vos salariés. Non, parce que c'est une vraie question que je me pose et je n'ai pas la réponse, parce que j'ai été salarié quand même pendant plus de 20 ans. Et je vous appelle, donc en tant que DRH, je vous fais « Mathilde, j'ai un problème ». Je viens d'avoir ma deuxième dose, donc en septembre, on va revenir à du mix, donc je veux revenir en présentiel. On est dans un open space, j'ai eu, moi, le Covid l'année dernière, j'ai quand même 5% de chance de récupérer une forme non grave du Covid. Et moi, je n'ai pas du tout envie de récupérer le Covid. Comment est-ce que je vais être sécurisé en septembre par rapport à des gens qui ne seront pas forcément vaccinés?
Alors ça, c'est la vraie question que tout le monde se pose, je pense. Est-ce qu'il va y avoir des conditionnements des accès au bureau en fonction de la vaccination ou non des salariés? Ça m'étonnerait, mais voilà, on verra. On attend aussi des directives du gouvernement sur ce genre de choses. C'est une très bonne question que vous posez et je n'ai pas les réponses.
Parce qu'elle est compliquée, cette question, tout de même. Parce que d'un côté, il y a la liberté de ne pas se faire vacciner, qui est tout à fait respectable, mais de l'autre, il y a la santé globale. Et là, j'ai envie de vous dire, Mathilde, je vous plains, parce que ce sujet-là est très compliqué. Parce que le gouvernement, je vous le dis, dès maintenant, ne prendra jamais la responsabilité d'un passeport sanitaire généralisé, jamais. Il le fera très probablement, il a déjà dit un peu, pour les hôpitaux, ça très clairement, mais pour les entreprises, ça va être la célèbre technique du « démerdon zizich ».
Oui, c'est ce qu'on vit là d'ailleurs depuis le 9 juin, c'est un peu je parle pas allemand, c'est de l'allemand, hein, c'est ça?
Oui, c'est du fralement, on va dire.
C'est fralement, des merdes aux zizich. Ben voilà, donc on est un peu là-dedans déjà, donc on s'adapte. Voilà, là on a mis en place du 50-50 avec des équipes alternées, assises en quinconce, etc. Et sur la base du volontariat. Donc pour l'instant, c'est vraiment très souple. À partir de septembre, je pense que les règles vont être plus claires. J'espère qu'on estimera qu'on est déjà dans un post-Covid. Alors, en effet, les gens vaccinés, normalement, commencent à être, devraient être plus rassurés. Et donc, on peut se dire que les gens les plus craintifs seront vaccinés et se diront que c'est pas trop risqué de venir au bureau. Mais bon, après, il y a toujours un doute. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas. Je pense que voilà, le vaccin ne protège pas à 100%. Mais à ce moment-là, est-ce que ces gens-là vont arrêter aussi de voir des amis?
Je trouve que les DRH ont quand même un rôle assez extraordinaire depuis un an, vous n'avez jamais été aussi central. Et justement, ça sera mon avant-dernière question. Vous avez un parcours qui est quand même assez unique, parce qu'en France, on aime bien les cases. Vous avez fait 10 ans de banque, vous allez faire de la banque. Et puis généralement, les annonces d'emploi, c'est on vous demande 10 ans d'expérience dans le métier qu'on vous propose. Vous avez fait un tournant. Alors j'imagine que c'est lié à la personnalité des fondateurs qui vous ont fait confiance là-dedans. Et j'imagine, peut-être à tort, vous allez répondre justement, que vous aimeriez bien avoir cet état d'esprit au sein de 55 et donner la possibilité éventuellement à quelqu'un qui est au marketing de passer à la finance, ou plutôt l'inverse en fait, parce que là, ça serait pervers. Mais plaisanterie mise à part, comment est-ce que vous allez justement essayer, si c'est déjà le cas d'ailleurs, comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait cet état d'esprit?
Alors déjà, on essaye de, pas de promouvoir en tout cas, mais de faciliter à minima la mobilité interne. Donc, que ce soit mobilité interne ou mobilité internationale. La mobilité internationale, c'est venu avec le fait que 55 a grossi. Donc, ça, c'est des options en plus qui s'offrent aux salariés. En plus, maintenant, on fait partie d'un groupe, notre actionnaire majoritaire qui s'appelle You and Mr. Jones est un gros groupe qui détient plusieurs entités. Donc, on a aussi des facilités pour avoir des ponts qui se créent entre les différentes entités pour avoir de la mobilité. Et moi, je pense que très clairement, déjà jusqu'à maintenant, on a su écrire des belles histoires pour les gens qu'on souhaitait garder et puis qui avaient envie de renouveau pendant leur carrière. Alors après, on n'a pas des centaines de possibilités non plus. Hein. On reste une boîte de conseil en stratégie digitale, mais il y a quand même différents rôles chez 55 et on a su souvent mettre en place des passerelles. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe chez nous et je pense qu'il est reconnu. Et au-delà de ça, on a intégré beaucoup de gens qui venaient d'univers différents. Donc, on a recruté des gens qui, pour une partie de nos effectifs qui s'appelle la Factory, qui s'appelle maintenant Tracking Services. C'est les gens qui s'occupent de faire tout le tracking sur les sites internet des entreprises, enfin de nos clients. Et donc, dans cette population-là, on a beaucoup de gens qui ont eu des parcours complètement différents avant de rejoindre 55, qui ont fait une reconversion, qui sont passés par notamment une école qui s'appelle l'IFOCOP, ils sont contents que je les mentionne, mais c'est vrai, on travaille beaucoup avec eux, et qui leur apprennent à faire du code, qui est la base de ce métier-là. Après, quand ils intègrent 55, on leur apprend spécifiquement à faire le métier qu'ils vont être amenés à faire chez 55. Et puis, ils bénéficient On le constate, hein, c'est des gens qui ont une vie, mais vraiment complètement différente. Hein. Pour certains, c'est une totale reconversion. Des gens plus âgés, parce que la moyenne d'âge de la population chez les 55, c'est 29 ans. Mais c'est vrai que pour certains, ils arrivent avec des parcours très atypiques et ils nous rejoignent. Et on sent bien que la maturité qu'ils ont acquise avec leur métier précédent, même si ce sont des métiers totalement différents, leur permettent d'avoir une trajectoire qui va plus vite chez 55. C'est-à-dire, ils repartent de zéro parce qu'ils ont envie de complètement se reconvertir. Mais derrière, la maturité fait que ça fait un beau tremplin et ça va assez vite pour eux. Donc, on a des belles histoires de reconversion.
Bah super. Bah écoutez, Mathilde, on arrive vers la fin de cette interview et donc je vous ai demandé, comme à tous mes invités, de travailler et de choisir une citation ou un mantra que vous aimez bien ou que vous utilisez et de nous expliquer pourquoi ce choix.
Alors, ça ne m'a pas demandé de travailler beaucoup, je vous avoue. Hein. Je n'ai pas bûché énormément, mais j'en ai qu'un mantra, c'est de profiter du moment présent. Et c'est vrai que je l'ai appliqué depuis que, inconsciemment, je pense, depuis longtemps. Et j'ai de plus en plus conscience que c'est ce que je fais au quotidien. Bon, parfois, c'est dur pour mes proches, c'est dur pour mon mari. Mais comme il est très, très convaincant, il a réussi quand même à me faire faire 2 enfants. Voilà, je ne le remercierai jamais assez parce que pour quelqu'un qui a du mal à se projeter, c'est parfois difficile. Voilà, mais je pense que l'essentiel pour être heureux, c'est de profiter de l'instant présent. Et comme votre émission s'appelle Happy Work, je pense que c'est clé. Après, ça n'empêche pas évidemment de se projeter, d'avoir envie d'évoluer, etc. Mais si on ne se satisfait pas du quotidien et qu'on ne vit que pour ce qu'on aura demain, c'est un enfer. Donc là, je pense que c'est la conclusion.
Ben, merci, parce qu'en fait, c'est un peu ma philosophie en permanence et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, surtout en France, d'expliquer aux gens que oui, ok, peut-être que demain, ça ira mieux, mais déjà, essaye de faire que là, maintenant, tu ailles bien. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi ce mantra qui me va parfaitement bien. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir accordé ce temps, Mathilde. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon courage pour septembre.
Merci.
Que la force soit avec vous.
Oui, on en aura besoin.
Et à très bientôt.
Merci, Gaël. Bravo pour tout. À bientôt.
Merci.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.